Be'ezrat Hashem, quand il y a des ikuvim, c'est que les choses sont très importantes, et étant donné que nous sommes dans une charnière très très importante de l'histoire, effectivement, il se passe énormément de choses, et Be'ezrat Hashem, nous allons être des acteurs actifs de cette dernière Géoula du peuple d'Israël et du monde entier. Alors, je vous ai donc préparé un cours qui s'appelle Galut Mitzrayim VeGeulat Israël, c'est-à-dire que nous sommes dans un double degré. L'un, c'est l'exil, et l'autre, c'est la sortie de l'exil. C'est-à-dire qu'il faut utiliser, en fait, cette puissance qui se trouve en Égypte, c'est une énergie que l'Égypte contient, pour libérer, en fait, cette énergie. On ne peut pas sortir d'Égypte s'il n'y avait pas quelque chose d'important, on ne serait jamais descendu en Égypte. C'est-à-dire que l'Égypte contient, en fait, tout ce que le monde a besoin pour être sauvé. Mais étant donné que c'est en Égypte, tout est caché dans la nature des choses. Et il faut une structure d'âme qui s'appelle Israël, qui va être le porteur de ce message et qui a la capacité, de par sa création spéciale, de trouver ces points de lumière qui sont cachés dans cette matière et de les sortir de cet exil. Alors on va commencer en annonçant que Am Israël hu sod shmo shel yudke vavke. Le peuple d'Israël, c'est le nom du tétragramme. Comment est-ce que c'est le nom du tétragramme? Eh bien, le nom, vous savez que c'est pas seulement le nom quand on appelle. Le nom, c'est le dévoilement. C'est pour ça que nous parlons de deux degrés, de lui et de son nom. Hu ou Shmo. Même si c'est Echad, Hu ou Shmo, Echad, mais il y a deux degrés. Donc nous sommes obligés, de par l'énonciation de la chose, l'énoncé de cette chose-là, de nous occuper de ces deux degrés. D'un degré qui s'appelle « Hu » et de son degré qui s'appelle « Shemo ». À la fin des temps, on va découvrir le « Hu » et le « Shemo » qui ont toujours été un. Et c'est pour ça que le Zohar nous dit « Kucha berichu, oraita ve Israël » Chad Behod. C'est-à-dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, c'est une seule et même chose. Alors, si c'est une seule chose, ça veut dire que nous, on est Dieu. On est la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'Israël, c'est le nom. Le nom, Shemo, valeur numérique, 346. Vous voyez, Shemo. C'est la même valeur numérique que Ratson. Ratson, c'est-à-dire sa volonté. Donc Israël, c'est le nom d'Hachem, ce qui veut dire que nous sommes la volonté d'Hachem au niveau manifesté, ce qu'il veut. Donc nous sommes là à courir, parce que Ratson donne naissance au mot la route, ani rat. Pourquoi je cours? Parce que je veux, parce que j'ai un désir. Donc le Ratson me fait courir. Donc Israël, en réalité, court durant toute son histoire pour dévoiler, en fait, le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Am Israël nivra ketzino, donc le peuple d'Israël a été créé comme un canal, le gilui ha-ratson ha-elyon babria, pour dévoiler le ratson. Vous voyez que maintenant nous avons rencontré une troisième définition, le tzino. Sinor et Ratson, ce sont les mêmes lettres. Ici, je vous ai rajouté un Yud, mais en réalité, on peut écrire Sinor sans Yud. Donc, le mot Ratson et le mot Sinor, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été créé pour être le canal d'Akadosh Baruch Hu, par lequel Akadosh Baruch Hu, en fait, glisse. D'accord? Il coule de source. Comment on appelle en hébreu, il coule de source? Mazal. Donc, Mazal Tov, c'est pas une bonne chance. C'est tout simplement un bon écoulement. Donc quand tu dis à quelqu'un « Mazal Tov », tu fais écouler du divin à travers la mitzvah que vous êtes en train de réaliser. En l'occurrence, le mariage ou peu importe. Donc, Israël a un rôle. A historia shel am Israël, hi hazira. Donc, l'histoire du peuple d'Israël, c'est en réalité la reine. Les foulotav shel abore bebriato. La reine, elle apostrophe, une arène. D'accord? Elle apostrophe pour le dévoilement de Dieu, c'est-à-dire le terrain dans lequel l'infini va jouer. Ok? C'est la plateforme de son dévoilement. C'est ce qu'on appelle l'histoire. C'est pour ça que les Chachamim, dont le Rav Kook, appelait Historia, Hesteria. C'est là où Dieu se cache. Amalachim hatachtonim hem masa giluyo shel harason ha'elyon. Donc, toutes les énonciations, toutes les choses que vous voyez dans les informations, toutes les nouvelles, tout ce qui se passe dans ce monde, en réalité, c'est une plateforme de dévoilement. Nous devons voir toutes ces choses-là. Quand vous regardez une émission, quand vous entendez les informations, vous devez écouter ça, vous devez voir ça avec les yeux du divin. Si vous arrivez à voir l'information du jour avec les yeux du divin, vous comprenez qu'en réalité, ce sont les actions d'Akadosh Baruch Hu à travers ce qui est en train de se passer. Et nous avons une mitzvah de voir la réalité d'aujourd'hui avec ces yeux-là. On appelle ça mitzvah tzipia la Yeshua. La tzipia la Yeshua, c'est l'une des cinq questions que l'on pose à la Neshama lorsqu'elle arrive, après sa mort, devant le tribunal céleste. On va lui poser la question, est-ce que tu as pas attendu l'itspot et l'etsapot, c'est la même chose. Pas seulement aspirer, l'itspot c'est regarder, observer. Donc l'etsapot et l'itspot c'est la même racine, har hatsofim, le mont Scopus par lequel tu vois. Donc tu devais voir, et c'est ça la question qu'on va poser à la Neshama, est-ce que tu as vu dans les informations que tu regardais, comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son histoire. Est-ce que tu comprends qu'il s'agit ici d'une plateforme divine pour se dévoiler? Et si tu ne fais pas ça, tu as l'impression que ce qui se passe ici, la politique, tout ça, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Donc tu ne comprends pas l'histoire parce que tu as l'impression que Dieu c'est un religieux et que l'histoire c'est autre chose. Alors qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu il s'habille où? Dans l'histoire, et notamment dans l'histoire d'Israël. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le peuple d'Israël, par exemple maintenant nous avons des votes, bientôt, eh bien il y a quelque chose qui va changer dans les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Donc c'est comme ça qu'il faut voir. Alors qu'est-ce que je dois faire moi dans une situation pareille, en prenant cet exemple? Eh bien je dois participer à ce vote pour donner le maximum de chances à l'infini, à l'absolu béni soit-il, de se dévoiler. Je vais essayer de ne pas me tromper selon les critères de la Torah. Donc j'ai aussi des façons de voir pour qui aller voter et ne pas me tromper. Mais de toute façon, je participe à l'élaboration parce que je veux qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile plus dans le monde. C'est comme ça qu'il faut aller voter. C'est pas que lui il va me donner un petit peu plus d'argent et que l'autre non. Est-ce que nous avons un intérêt personnel ou est-ce que nous avons un intérêt de ce dévoilement divin? Et ça, on ne peut pas mentir. Chacun d'entre nous ne peut pas mentir. À Kadosh Baruch Hu, tu peux mentir à tout sauf à la lumière divine. Donc, si tes intérêts, dans tout ce que tu fais, c'est ça, eh bien, il va t'accompagner dans ce degré-là parce que ton ratson, c'est son ratson et vous vous rencontrez au milieu. Exactement. Ce qu'on appelle une hishtavut hatsura. C'est-à-dire, j'adapte ma forme et mes désirs à ce qu'il veut, lui. Entre guillemets, à sa forme, à lui. Donc, s'il est miséricordieux, rachoum, moi aussi, je dois être rachoum. Et donc, si j'applique sa volonté, je me rapproche de ses idées. Donc, c'est ce qu'on appelle se rapprocher d'Hachem. On ne peut pas se rapprocher de lui, il n'a pas de corps, il n'a pas de forme. Donc, comment est-ce que tu peux te rapprocher? En voulant et en aimant ce qu'il aime. En haïssant ce qu'il haït. D'accord? Alors, quand il y a un pigoua, eh bien, il faut savoir que nous avons peut-être un certain manque au niveau des prières, au niveau du souci national. Quand on étudie, par exemple, maintenant, et que je ne pense pas au moment de mon étude à tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire, il faut bien comprendre, j'essaie de vous faire comprendre ça, mais c'est dur à passer, mais je le conçois, mais je le répéterai sans arrêt. Quand on est en train d'étudier ici, il y a des affaires qui sont en train d'être traitées, vous êtes d'accord? Que ce soit au Brésil, maintenant notre président est en train de signer des accords. L'accord qui est en train d'être signé maintenant, il est en train de signer, il va être plus fort parce qu'on est en train d'étudier. Tout est un. Un soldat maintenant a failli mourir et Baruch Hashem il a été sauvé. Au moment où nous sommes étudiés, en train d'étudier parce qu'il y a une lumière divine qui est descendue, il y a un kilo de divin en plus dans le monde, et donc il y a une protection beaucoup plus grande pour le soldat. Et vous comprenez, dans tous les domaines, je vous ai donné deux exemples, mais en réalité c'est pareil. Il y a un malade maintenant qui est en train de guérir. Le médecin vient de trouver la maladie de quelqu'un, ça fait un mois qu'il est à l'hôpital, on ne sait même pas ce qu'il a. Maintenant, la famille est en train de recevoir, au moment où je vous parle, une bonne nouvelle. On sait ce qu'il a, ça y est, on a trouvé le remède. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit groupe qui est en train d'étudier là-bas, chez Madame Toissy. Alors ça vous fait rire, ça vous fait sourire. Mais en réalité, c'est comme ça qu'il faut voir la vie. Akadosh Baruch Hu, c'est l'unité. C'est pas par hasard qu'on dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est une clé. Si tu ne vois pas ce Echad, ben t'as l'impression que tout est séparé. On est un petit groupe ici, il y a un autre groupe là-bas, l'autre il est en train de faire ses affaires. Aucun rapport avec nous. Pas du tout. Tout est lié à la réussite de nos frères. Et moi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux tout simplement mettre ma pensée, ma kavana, à aider tous ceux qui en ont besoin maintenant. Il y a un type qui est en train de mourir de froid dans la rue parce qu'il n'a pas de maison. Maintenant, au moment du cours, il vient de trouver un toit. Et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça marche? Et vous, vous devez être de plus en plus large pour penser à ça tout le temps. Pas facile, mais c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc en réalité, il faut tout voir avec cet œil du divin. Qu'est-ce que c'est l'œil du divin? Nous avons un verset qui nous dit ça, qui ein be'ein yir'u. Vous devez voir œil pour œil, c'est-à-dire de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu regarde la vie, toi aussi regarde la vie. Donc il la regarde d'une manière complète, lui. Il ne voit pas que des détails. Il voit le tout. Eh bien, essaye de voir le tout. Comment est-ce que tu peux voir le tout alors que tu es limité? Mais en étudiant une Torah du tout. Et la Torah du tout, c'est la Torah de ce qu'on appelle le tout en hébreu. Traduction, Sod. Sod, c'est pas le secret, c'est le tout. Donc nous sommes en train d'étudier la Torah du tout. Et chez les Kabbalistes, on appelle cette Torah, Torah Ha'atzilut. La Torah du monde de l'émanation, où là-bas, tout est un. Ihu vechayoi vegarmoi chad behon. C'est de l'araméen, ne vous inquiétez pas, c'est du Zohar. Lui et ses dévoilements, les lumières et les kélim, c'est une seule et même chose. Si tu vois l'existence de cette manière-là, tu te trompes de moins en moins. Parce que tu as une image globale. Tu n'es pas en train de t'occuper d'un petit détail, comme la médecine des fois, qui s'occupe de guérir un petit bout de quelque chose, mais elle ne sait pas le dégât que ça fait ailleurs. Pourquoi? Parce que si la médecine ne voit pas l'ensemble, et pas seulement le corps, mais l'âme aussi, eh bien, elle risque de se tromper sans arrêt. Et c'est la même chose dans tous les domaines. Quand vous traitez quelqu'un, quand vous traitez un sujet, traitez-le d'une manière entière. Et c'est pour ça que Abraham Avinu nous dit que l'étude de la Torah doit toujours embrasser le temps, l'espace et les êtres. Quand je développe n'importe quel sujet, Là, on est en train de parler de la Géoula. Eh bien, la Géoula, elle va se retrouver pas seulement au niveau des êtres, elle va se trouver au niveau du temps, car on va défier le temps, et elle va se trouver au niveau de l'espace, car on va défier aussi l'espace. Donc sortir d'Égypte, c'est dépasser le temps, c'est dépasser l'espace, et c'est dépasser l'être. Comprenez comment ça marche? Je veux parler de Shabbat, c'est pareil, il y a le Shabbat du temps, de l'espace et de l'homme. Je veux parler des Tfilin, c'est la même chose. Si je ne sais pas développer tous les sujets de ma vie dans ces trois degrés, je suis boiteux de l'un, des deux ou des trois.
Je ne comprends pas le Israël, c'est le nom de Dieu. Comment on
fait ben, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile, c'est son nom. Moi, je ne m'appelle pas.
On est juste un silence, mais on n'est pas Dieu.
On n'est pas Dieu, mais on est son nom. Ah, Yoel, c'est pas moi.
Hein?
Ben oui, c'est mon nom.
Oui.
D'accord?
Oui.
Moi, je ne m'appelle pas Yoel.
Il définit
Yoel. Toi, tu m'appelles. Non, il ne définit pas. Il définit une direction. Ah. D'accord? Donc, moi, je ne me suis jamais appelé. Je n'ai pas besoin. Ah. Toi, tu m'appelles. Oui. D'accord? Ça veut dire que pour qui est mon nom? Oui. Pour mon dévoilement.
Ah.
Donc le nom, c'est le dévoilement. Donc Israël, c'est le dévoilement. C'est tout. Alors, on fait attention à l'âme Israël. Une fois que l'âme Israël apparaît, hi efoach elek amerkazi begilu ishem hashem baolam, pour que Akadosh Baruch Hu donc apparaisse dans ce monde, avec ses valeurs, avec ses données, avec sa grandeur, avec sa richesse, car c'est le roi de tout. Donc il a tout chez lui. Il a la richesse, il a la bonté, il a l'intelligence, il a la santé, il a le courage, il a tout ce que vous aspirez dans la vie. Donc on veut que ces valeurs viennent dans ce monde pour qu'on soit, nous aussi, riches, courageux, en bonne santé, et ainsi de suite. Intelligents, vous comprenez? Plus il y aura de lui dans ce monde, plus ce monde aura toutes ses qualités. Et c'est ça la Géoula. On va remplir ce monde de tous les manques. Alors qui fait ce travail? On a dit Israël. Mais pour qu'Israël commence à faire ce travail, il faut qu'Israël se dévoile. Tant qu'Israël n'est pas dans l'histoire, qui n'est pas dans l'histoire? Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il est où? Tant qu'Israël n'est pas en bas, il est en galoute. Il est en exil. Et il est où son exil? Le ciel. Ça s'appelle le ciel. C'est le ciel. Mitzrayim, c'est le ciel. Eretz Israël, c'est la terre. Donc, Mitzrayim, c'est un ciel. Donc, traduisez le mot ciel, idée, idéaux, pensée, volonté, désir, mais qui n'a pas de réalisation, il n'a pas de jambe. Donc, les gens qui se trouvent en Égypte, ce n'est pas des gens qui se trouvent dans un pays qui s'appelle l'Égypte seulement. C'est des gens qui se trouvent dans des conditions où ils ont tout en forme d'idéaux. Ils veulent tout dans leur vie, mais ils n'arrivent à rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont. Donc l'Égypte, c'est l'ensemble des désirs sans aucune réalisation. Donc qui est en Égypte en réalité? Tous les désirs, toutes les pulsions, toutes les envies, tous les rêves, toutes les constructions que j'ai envie de faire dans ma vie, si je n'arrive pas à les traduire en réalité, eh bien ça reste dans un ciel. Eh bien, c'est comme si Akadosh Baruch Hu restait dans son ciel, dans ses pensées, et ça ne descend jamais sur terre.
Il fallait qu'on aille au ciel avant d'arriver sur la terre?
Parce que les idées, elles viennent du ciel. Donc, Mitzrayim représente en fait une tête avec toutes les pensées. Combien de pensées vous avez dans la tête? Une infinité, d'accord? Vous n'arrêtez pas. Mais combien de ces pensées arrivent à traverser votre cou? Vous voyez maintenant que ça se rétrécit? Ça s'appelle Tsavar. Tsavar, ça vient du mot Tsar. Donc Mitzrayim se trouve, en fait, comme un blocage, comme si on a été pris au cou. Donc on nous empêche l'expression. Et qui est le roi de ce blocage? Il est là. Par Oref. Oref, c'est la nuque en hébreu. Donc, le Oref, l'endroit où les hommes mettent les filines. Maintenant, vous comprenez pourquoi un homme met les filines? Pour court-circuiter, quoi? Cet état qui bloque. Donc, il a mis un point sur le pharaon, là-bas, qui risque de l'embêter. Hafra'a, Paro, Léafria, embêter, empêcher. Et là, il a deux routes, pas une seule. C'est-à-dire qu'il va court-circuiter ses kvish au kef paro. C'est une route qui contourne les problèmes. Donc immédiatement je descends, et jusqu'à où? Jusqu'à la partie basse de mon corps. Vous savez qu'il y a un secret comment mettre les lanières des tefilines dans la ceinture. Peu importe, maintenant je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est-à-dire la lanière droite et la lanière gauche, ce n'est pas le même nœud. Il y en a un qui vient d'en dessous et qui remonte, l'autre qui vient du dessus et qui rentre. Peu importe. Donc il y a ici des secrets. Et les lanières, elles descendent jusqu'à la Brit Mila et jusqu'aux jambes. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que je fais en mettant les tefillines ? Eh bien, je prends les pensées qui se trouvent dans mon cerveau droit, dans mes idéaux de actifs, dans mon cerveau gauche, dans mes idéaux de dire non, ça non. Je fais un lien entre eux, je fais un nœud, il est là. On le dessine en forme de dalet, parce que c'est une dalet, c'est une porte. Et cette porte, elle donne un cheminement, deux courants qui vont passer. Et à ça, je rajoute les filines de la main et du cœur, parce que ce n'est pas seulement la tête qui doit penser, je dois avoir aussi un cœur. Donc je dois réchauffer le cerveau qui est froid par un cœur qui est chaud. Et je dois attacher 7 degrés, qui sont 7 degrés des midot, que nous avons appris en forme de sphirot, et sur la main gauche, parce que c'est mon désir de recevoir, pour qu'en réalité, mon désir de recevoir ne devienne pas l'essentiel dans ma vie. Donc je l'attache, je lui dis attention, j'ai besoin de toi, mais je veux te contrôler. Donc je vais t'attacher. D'accord ? Vous êtes avec moi ? Ok. Finalement, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai une tête pensante, mais j'ai aussi une main agissante.
Je dirige ma tête.
Tout à fait. Et le tout est recouvert de quoi ? De la lumière infinie sous la forme du talit. D'accord ? Donc on ne met pas les filines avant d'avoir mis le talit, parce que d'abord il faut savoir d'où vient tout. Donc je mets au-dessus de moi un ciel ouvert. Ce ciel, c'est l'infini. Je n'ai aucune notion dans ce ciel. Je n'ai un petit peu, quelques petites notions dans les fils qui sont sur les coins. Mais sur le corps du talit, c'est beaucoup plus fin que les fils. Les gens ne savent pas ça. Ils ont l'impression que les fils, c'est là la kedusha. Non, ça c'est la kedusha visible. Mais le corps du talit, c'est la kedusha invisible. C'est pour ça qu'on met des rayures pour ne pas que tu te cognes dedans. C'est comme dans les vitres. Bien ? Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici tout un phénomène, une phénoménologie de l'infini qui descend dans notre monde. Donc je dois faire ça, et l'Égypte va m'empêcher en réalité, c'est l'histoire de l'empêchement. Et donc quand j'ai fait le travail de trouver Israël, parce que tant qu'Israël n'est pas trouvé, on ne peut pas faire ce travail. Et donc Israël va devoir se révéler. Beyesiat Mitzrayim, les femmes, elles sont liées aux hommes. Quand ses enfants, ils t'attrapent la jupe, Shami et Tilim. C'est tout. C'est ta manière à toi de mettre les cils.
S'il n'y a pas d'enfant, alors c'est quoi ?
Alors tu t'occupes de ton mari. C'est lui qui t'attrape la jupe ou autre chose. Bien. Il a besoin que tu lui donnes des mesures. Les chassidim, par exemple, tournent. La femme tourne autour du mari pendant la coupa. Ouais. 7 tours. Pourquoi ? Pour lui donner, en fait, une structure. À partir de maintenant, tu es là. Et jusqu'à maintenant, le monde était ouvert. Tu vas où tu veux, tu dors quand tu veux, tu manges ce que tu veux, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas d'endroit et tu n'as pas d'être. Tu n'as rien. Dans les trois domaines que je viens de citer, c'est l'explosion totale. Au moment où tu trouves une femme, d'un côté, tu as l'impression que tu rentres en prison. Ça veut dire qu'il y a un endroit, un être et un temps. Ça veut dire que tu dois maintenant commencer à respecter les choses. Alors d'un côté, ça t'étouffe, mais en réalité, c'est ça le début de la vie. Donc Akadosh Baruch Hu, tant qu'il est dans l'infini, d'un côté c'est grand l'infini, mais nous on reçoit rien. Donc on a besoin de faire une contre-action, car l'action divine c'est de se dévoiler, développer, 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 mais on reçoit rien, c'est tellement grand. Alors on va faire une contre-action, un contre-développement, on va faire un tzimtzoum. Et quand on va faire un tzimtzoum, c'est comme si on va dire stop à ce déroulement de l'infini. Donc on lui dit « die, shut die, stop, s'il te plaît, j'ai besoin de recevoir quelque chose de ta lumière. Si j'arrête pas, je peux rien recevoir. » Donc même quand ta Kadosh Baruch Hu circule dans ce monde, j'ai besoin de l'arrêter, moi. Il marche dans ce monde, j'ai besoin de l'arrêter pour comprendre quelque chose. On appelle ça « tak halakha ». J'ai compris. Ça veut dire « tafik l'alakha », sinon j'ai pas de halakha, je ne sais rien. Donc il est en train de marcher, il est en train de marcher, il est en train de marcher, je dis « stop ». J'ai besoin d'une halakha maintenant. Alors, animafik et ahalikha elohit. Vous comprenez, c'est tout, c'est très important. Et donc, la sortie d'Égypte, vous allez comprendre que ce n'est pas seulement l'histoire de nos ancêtres qui sont sortis. C'est chacun de nous. Et c'est ce qu'il dit le Rambam de dire, et on l'a retenu dans la Haggadah de Pessah. Chayav Adam, lirot et atzmo. Et si tu ne fais pas ce travail, eh bien, il y a plein d'idéaux, plein d'idéologies, plein de choses que tu as rêvées dans ta vie que tu ne réaliseras, chas v'shalom, jamais. Donc, en réalité, combien de tes idées ne sortent jamais? Le chiffre de ceux qui ne sont pas sortis, 80%. 80% au moins, dans le meilleur des cas, ne sont pas sortis d'Égypte. Ça veut dire que 80% de nos rêves, de nos envies, de tout ce qu'on avait envie de faire dans la vie, ça n'aboutit jamais. C'est terrible, ça commence maintenant à vous toucher plus. Tant que c'était des juifs qui étaient là-bas, tu dis, moi je m'en fous, on est sortis, on est là. Les autres, ils sont morts. Non, c'est toi, c'est moi, c'est tous les jours. Alors, est-ce que tu as envie que 100% de ce que tu es se dégage et s'ouvre, ou bien tu ne vis que 20% de tes possibilités, c'est péché. 80 sont en train de mourir, sont en train de pécher, parce que tu ne sais pas activer la totalité. Tu as un appareil extraordinaire et tu n'utilises rien du tout. Je vous ai dit dans le meilleur des cas, parce que la Gemara, ce que vous connaissez des 20% qui sont sortis, c'est la chose la plus gentille pour tout le monde. Parce qu'il y en a qui disent que 1 est sorti sur tout le monde. D'accord? Donc, si je prends ça au niveau numérique, ça fait 0,00 jusqu'à demain matin et un petit 1 à la fin. C'est péché, quoi. Qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces énergies? Et quand tu arrives de l'autre côté, on te dit, mais c'était une bombe atomique. Et toi, tu étais un petit pétard de machin qu'on fait exploser là, avec les doigts. C'était une bombe atomique, t'as rien fait. Quel gaspillage, j'ai implanté en toi des énergies énormes. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que t'as vu petit. Parce que toujours tu voyais petit. On va commencer en petit, on verra après. Il y a toujours ça. T'as l'impression que c'est humble et c'est bien. Pas du tout, c'est fini, ça c'était dans la galoute. En Eretz Israël, il faut grandir. Il faut voir les choses en grand. Il faut prendre des initiatives parce que c'est pas de moi, au contraire, je suis pas orgueilleux. J'ai dit à Kadosh Baruch Hu, si tu m'as amené ici et tu me donnes ces possibilités, aide-moi, moi je fais ça pour toi. Donc voyez les choses en grand. Tout ce que vous avez fait en petit, au bout de 5-6 ans, vous avez dit, ah dommage, si j'avais su, j'aurais fait un peu plus grand. C'est toujours la même chose. Donc, Beitiat Mitzrayim, Mimitzrayim. Lorsque Israël sort d'Égypte, Hechela Eifo Marchev et Abrial et Itmamesh. La pensée de la création du monde, qui était dans la création du monde, il y avait une pensée divine. Elle ne pouvait pas sortir, se réaliser. Personne n'était là pour la réaliser. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit, Yehi Or, il y avait quelqu'un?
Non.
Non. Alors, qui est-ce qui peut le raconter? Dites-moi. Hachem? À qui? À Israël. Ni à Moshe, ni à personne qu'au peuple d'Israël. S'il n'y a pas le peuple d'Israël, il n'y a même pas Moshe. Ça veut dire que si un jour, on a une Torah où il y a marqué « Vayomer Elohim Yehi Or », qui a donné ce secret au monde? Le peuple d'Israël, qui a reçu donc la Torah. C'est la même chose. Ça veut dire qu'il n'y avait pas Israël, personne n'aurait jamais
dévoilé
ce qui s'est passé. On ne sait pas.
On n'y croit pas.
Ils n'y croient pas. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme preuve pour faire croire à tout le monde? La sortie d'Égypte. Parce que celui qui est capable de faire sortir quelqu'un d'Égypte, c'est qu'il est capable de défier les lois de la nature. Et pour défier les lois de la nature, il faut que ce soit lui-même qui les ait créées. Vous comprenez le piège qu'il y a là-dedans?
Ils sont tous morts. Ils ne peuvent pas dire que c'est vrai qu'ils
étaient. Alors il y a un qui est sorti.
C'est Israël.
Et même Paro, il a reconnu à la fin. Il a dit, ni Kamor.
Il a transmis.
Il a transmis. Il a ouvert une ville qui s'appelle Nineveh. Nineveh. Voilà, c'est la même chose. C'est la continuité, c'est Paro. Ok, alors on continue. Ou Mikan Shel Eruaze. Donc, cette... Cet événement, Toda, Yeshna Hashibut Meyokhedet Bemina. C'est pas juste une sortie d'Égypte, il y a ici une importance capitale. Quoi? Derech geulato shel am Israël, echel gam haratzon ha-Elohi lehigael mikilo hashmeimi. C'est-à-dire que, en réalité, quand Dieu il a sauvé Israël d'Égypte, il s'est sauvé lui-même de son propre Égypte, qui était en réalité les idées qui ne pouvaient pas se réaliser sur terre. Et d'ailleurs, nous avons un verset dans Shmuel Bet, Zayin Kav Gimel. Écoutez ce verset, il est magnifique. Asher padita lecha, tu as sauvé, tu as racheté pour toi, Kadosh Baruch Hu, Mimitzrayim, Goy ve Elohav. Qui est sorti d'Égypte? Goy ve Elohav. La nation et son Dieu. Vous comprenez ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de lire là? Ça fait peur. Tu dis à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'étudier de cette manière-là, Dieu était en Égypte, il va dire celui-là, il est fou. Mais en réalité, il faut comprendre. Et toute la Kabbalah est basée là-dedans. C'est qu'Akadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est-à-dire sa présence, son dévoilement, sont dans la poussière. Personne n'est là pour les révéler. Et ça, c'est une peine pour Akadosh Baruch Hu. Personne ne le reconnaît. Les paroles de la création du monde sont tombées dans les oubliettes de l'histoire. Qui va être capable de ressortir ça des oubliettes? Que celui qui a reçu la Torah, donc le peuple d'Israël. Mais quand est-ce qu'il a reçu la Torah, le peuple d'Israël? Quand il est sorti d'Égypte. Donc sans sortir d'Égypte, tu ne peux pas donc dévoiler la Torah, donc tu ne peux pas dévoiler Dieu sur terre. Donc le don de la Torah au Mont Sinaï, c'est rien par rapport à la sortie d'Égypte. C'est juste en réalité une étape de plus dans ce dévoilement. Mais toute cette Torah, en réalité, qu'on a reçue 50 jours après la sortie d'Égypte, elle était où cette Torah? En Égypte. Maintenant, vous comprenez, pas dans le pays, mais dans la... Dans le concept d'Égypte. Ça veut dire qu'elle était enfermée dans une prison, impossible de la dévoiler. Okay? C'est ça ce qu'on appelle, c'est le ciel des idées. À tel point que le Zohar HaKadosh, quand il vous parle de l'Égypte, il ne vous dit pas que les enfants d'Israël étaient en Égypte. Il dit quelque chose d'incroyable. « Bemitzrayim hadibur haya bagalut. » Ce qui était en Égypte en réalité, c'est le verbe. Mais pas seulement le verbe. « Dibour ». Qu'est-ce que c'est « dibour » ?« Il a fait. C'est un échange avec quelqu'un. En hébreu, il faut savoir les différenciations, les nuances, sinon vous ne pouvez pas étudier. « Ani omer » Je dis, mais c'est à moi-même. Anime d'aber itach. Donc il y a ici dialogue. Donc écoutez bien, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, comment ça s'appelait? Amirot. Ou Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Baruch Omer Ve'oseh. Il était tout seul. Donc ces ma'amarot là, elles sont tombées dans les oubliettes en Égypte. Combien il y avait de ma'amarot? 10. Donc il fallait en réalité 10 plaies en Égypte pour libérer ces 10 ma'amarot et les transformer en aseret ha-dibrot. Maintenant j'ai un interlocuteur, j'ai quelqu'un qui peut m'écouter. Donc qu'est-ce que j'ai gagné en sortant d'Égypte? Un interlocuteur. C'est la première fois dans l'histoire où il y a une forme humaine qui est capable d'entendre Akadosh Baruch Hu. Oh là 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 là.
Abraham, déjà, il écoutait Abraham.
Oui, c'est une personne, c'est pas un peuple. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit à ce même Abraham, je ne veux pas de toi tout seul. Ve'etrale goy gadol. Tu m'intéresses pas tout seul. Pourquoi je dis aux religieux, arrêtez de croire qu'en faisant vos petites mitzvot tout seul, vous êtes, ça y est, mesoudarim, on n'en a rien à foutre des autres. Non! C'est une question de la nation tout entière. Même quand tu mets tes filles tout seul, tu dois penser à cette nation, à ce lien, à ce kesher que tu es en train de faire. Retenez bien ce verset. Tu as sauvé un peuple et son Dieu. Vous avez compris ça? Ok. Ameimada metaphysi a shayach le am Israël. Donc il y a ici un niveau métaphysique, c'est-à-dire qui dépasse l'entendement humain, physique, celui que tu vois. Il y a un degré comme ça dans le peuple d'Israël. Et Cheléophia, bien, ce degré-là, qui était métaphysique, au-dessus de ce monde de lois physiques, de molécules, d'atomes, Akadosh Baruch Hu n'est pas dans limité dans les molécules, dans les atomes. Eino demut haguf ve eino guf. L'on a arochelav kdushato. On ne peut pas le définir dans ce qu'on apprend nous. C'est pour ça que quand vous dites à quelqu'un Dieu est une énergie, c'est faux. C'est pas une énergie. T'as pas le droit de définir de cette manière. Tu le mets dans tes conceptions à toi d'homme. Donc le méta, ce qui était au-dessus de la physique, et chelofia betiat mitzrayim, veushina et amivna yesodi shekol ametziut. Et ça a transformé tout. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une force qui dépasse complètement la physique. Il fallait au contraire dépasser le monde physique avec ses lois. Comment on appelle le monde physique avec ses lois? Elohim. Elohim, la nature. Donc Pharaon, il connaissait quel nom? Elohim. Il ne savait pas le nom de Yudke Vavke. Et c'est pour ça que ça veut dire qu'il ne savait pas ce nom, quoi. Il n'a pas entendu, il n'a pas lu. Il savait, c'était un sage, il était dans la Touma, mais c'était un sage, il connaissait. Mais il ne comprenait pas, il n'avait pas la conception, il ne comprenait pas quelque chose qui puisse dépasser l'intellect humain. Ce n'est pas possible. La Grèce qu'on vient de dépasser avec Hanouka, d'où elle est sortie la Grèce? L'Égypte. Vous savez, c'est la même racine. Ça veut dire qu'en réalité, les Grecs sont restés au même niveau. Dans le mot Yavan, il y a le mot Higayon. Dans le mot Higayon, il y a le mot Yavan. C'est-à-dire la logique humaine. Aujourd'hui, nous, après 2000 ans d'exil, beaucoup d'entre nous, on est encore limités dans le Higayon, dans la conception cartésienne, logique, rationnelle, humaine. C'est ça l'Europe. Dès que tu parles de quelque chose qui dépasse, c'est irrationnel, donc c'est facile, on te jette.
C'est ça.
Quel?
Pourquoi on appelle Abina Elohim? Si c'est Abina de Léal.
On l'appelle pas Elohim. On l'appelle Elohim. J'ai jamais vu Elohim.
Elohim.
Ah. On a le droit de dire. Oui.
Pourquoi on appelle la Bina Elohim?
Ben, tout simplement parce que la Bina, c'est le début des limites. Quel olam c'est la Bina? Bria. Bria, c'est déjà une création, une sortie. Même si c'est au niveau conceptuel, c'est déjà sorti de l'unité. C'est déjà deux. Quel est le nikoud, comment on dit le nikoud? La ponctuation de la Bina. Non, non. Bien fait. Deux points. Comment on appelle ça en hébreu?
Serré.
Pas Shva. Shva, c'est pour Gvoa. Serré. Ça veut dire qu'il y a déjà deux. C'est serré. Donc il est déjà dans le monde de deux. C'est pour ça qu'il s'appelle Bina. C'est Bein. Au masculin. Bein ou Bein. D'accord? C'est entre, donc il y a deux. Donc c'est pas encore l'unité. Donc, Nekudat Agioula Mimitraimi Trilato Shel Olam Khadash. Il faut que vous compreniez bien qu'en sortant d'Égypte, on a commencé un nouveau départ dans le monde. Veshava Be'erka, à tel point que c'est aussi important la sortie d'Égypte, les Maase Briyata Olam, que la création du monde. Donc en réalité, je peux appeler la sortie d'Égypte création numéro 2. Exactement. On ne dit pas Zecher le Briyata Olam. On dit Zecher Liseat Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il a une carte d'identité. Il n'y a pas marqué dessus créateur du monde. Il aurait pu. Il y a marqué non, celui qui fait sortir d'Égypte. Bizarre. C'est ça que tu marques dans ta carte d'identité? Pourquoi tu marques pas créateur? Ça fait mieux, non? Il dit oui, mais il n'y a personne qui peut me croire. J'étais tout seul. Mais quand j'ai fait sortir d'Égypte, vous avez tous vu que j'ai défié la nature. Donc si j'ai défié la nature, c'est moi qui l'ai créée, cette nature. Maintenant, pourquoi je vous dis que la sortie d'Égypte et la création du monde ont la même valeur? Qui c'est qui le dit, ça? Non. La Gemara de Tanaïm, dans le traité de Rosh Hashanah, ils vont tout simplement discuter entre eux. À quel moment le monde fut créé? Et maintenant vous comprenez pourquoi C'est-à-dire que Rabbi Eliezer, il va dire que le monde a été créé à Tishré. Pourquoi? Parce que c'était les lois de la nature telles qu'on les connaît. Mais Rabbi Yoshua, il va lui dire, non, mon vieux. C'est à Nissan, c'est à partir du moment où on est sorti d'Égypte. C'est ça leur discussion. C'est pas une histoire d'horaire et de mois. Entre nous, hein, il n'y avait pas de mois quand Dieu il a créé le monde. Hein. Donc qu'est-ce que ça veut dire à Olam Nivra Benissan ou Nivra Betishré? Ça veut rien dire. De quoi tu me parles? La notion de temps, elle est inhérente à la création. Donc avant, il n'y avait pas de temps. Mais en réalité, la question de ces deux sages, c'est en réalité, nous, on va faire semblant de discuter entre nous, mais ceux qui vont étudier la Gemara à la fin des temps, ils vont comprendre qu'en réalité, on donne la même importance à la sortie d'Égypte qu'à la création du monde. C'est ça l'idée. D'accord? Lefichach, yesh le'amik benotzei yitziyah mimitzrayim be'oto mishkal sheyesh le'yitziyaches la'briya. Donc donne le même poids à l'étude de la sortie d'Égypte que tu donnes à la création du monde. À la création du monde, waouh! La sortie d'Égypte, ah! Non, t'as rien compris. Kevan Sheshne Ameoraot, Achuzim Zebazé, parce qu'ils ont un lien intrinsèque les deux. C'est extraordinaire. Donc, le mois de Tishré, même aujourd'hui dans notre vie, parce que le temps maintenant a été créé, qu'est-ce qu'il a dans sa nature, le mois de Tishré?
Il est où là?
La nature. Il a dans sa nature la nature, c'est-à-dire les lois physiques de ce monde.
C'est important.
C'est très important. Alors que le mois de Nissan, qu'est-ce qu'il a dans sa nature? La Géoula. Exactement. Maintenant, vous comprenez pourquoi la Géoula des nations, c'est quel mois? Tishré. À quelle fête? Soukot. Vous avez compris maintenant? C'est très simple, c'est très logique. Car les nations du monde, elles sont dans la logique. Donc le mois qui correspond à la logique, c'est Tishré. D'ailleurs, en hébreu, Tishré veut dire déposer. Le Shoré. Alors que Nissan veut dire naître. Donc les nations du monde, comment elles les appellent? Je viens de le dire. Les nations du monde. Alors qu'Israël n'est pas appelée nation du monde, elle est appelée Kol Israël Eslaim Khelek, le Olam Abba. On ne l'appelle pas nation du monde. On nous appelle Umot HaOlam et Israël. Quoi, Israël n'est pas Umot HaOlam? Non. Non. Alors comment elle devient Umot HaOlam? À travers la lumière qu'elle va apporter aux nations qui, elles, sont les Umot HaOlam. Donc en Israël est quoi? C'est le porte-parole de qui en fait? De l'infini. Donc on est extra-terrestre. Vous avez compris? Qui devons acheter tout deux fois. Tout ce qu'on achète, on rachète ici. C'est comme ça. On a reçu une terre et on rachète encore une fois les terres. Le KKL, qu'est-ce qu'il fait? Il rachète nos propres terres. Je ne comprends pas. C'est à toi ou c'est pas à toi? Qu'est-ce que tu rachètes sans arrêt? Ben, tout simplement parce qu'on a tellement de difficultés avec ce Olam Hazé, on est tellement dans un autre niveau que notre difficulté c'est ce monde-là. Alors, qu'est-ce qui nous a aidé réellement dans l'histoire pour être aussi dans ce Olam Hazé? C'est que Yaakov, il a pris la bracha de Esav. Et c'est pour ça qu'il a mis un déguisement. C'est-à-dire que nous ici, on est des déguisés. On n'est pas les vrais. Et donc, le papa y touche. Qui c'est le papa maintenant? Akadosh Baruch Hu, oubliez l'histoire, sortez, je vole avec vous. C'est le TGV, c'est Torah grande vitesse. Sinon,
viens.
On n'a pas volé. On a récupéré la partie qui était à lui. Parce qu'il ne s'en servait pas comme il fallait. Donc maintenant, on a et le Olam Abba, et on a pris aussi les brachos du Olam Hazé. Donc on va devenir une nation start-up. Et ça, il va venir prendre de nous. Aujourd'hui, la plus grande nation, Bli Aïn Hara, que ça continue comme ça, il y a 7 et quelques milliards de dollars d'investissement juste sur une start-up, que vous compreniez la différence. En France, c'est 400 millions au niveau des start-up. C'est-à-dire que c'est même pas, il nous arrive même pas à l'ombre de la cheville, quoi. C'est inouï. C'est inouï, ça fait rien, on est juste encore, on est des bébés encore au niveau de l'histoire, on est en train de grandir, mais ils ont tous la trouille. Parce que si aujourd'hui, c'est déjà comme ça que ça va être dans 70 ans, ça fait que 70 ans, on vient de naître, on a encore des couches. Parce qu'imaginez-vous au niveau d'un enfant, c'est un enfant qui est avec des couches et qui est déjà au téléphone, devant son père, il a les couches, il marche comme ça, il tombe, il a la sucette, de temps en temps il enlève, il dit oui, alors qu'est-ce que... Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, les mecs, ils viennent, tous les journalistes du monde, ils se disent, mais attends, il y a de la paranormale ici. Vous comprenez même pas qu'on est des bébés au niveau de l'histoire. Et comment un bébé, il peut faire ce qu'on a fait? C'est tout simplement la jeb.
J'ai 1000 ans pour me préparer.
Hein? Ah, mais c'est pas 2000 ans, c'est parce qu'on vient d'ailleurs. On est rapide dans l'intelligence. Quand on va aujourd'hui, quand vous voyagez aujourd'hui en France, vous avez l'impression qu'on vous tire dans le passé. Tout est lent. Mais tu ne tiens même plus. Ici, c'est, le feu, il n'est même pas passé au vert, tout le monde se klaxonne. Mais pourquoi? Alors, tu as la possibilité de voir ça comme quelque chose de négatif. Mais en réalité, il y a un feu intérieur qui te dit, mais avance. C'est très très fort. Rabotaille, on peut toujours voir la négativité. Mais moi, je suis en train de vous éclairer pour comprendre ce qui est en train de se passer.
Alors, ceci sur les sables, là, vous n'avez pas dit.
C'est tout l'Occident, l'Europe, l'Occident, les États-Unis, tout. L'obichdim amida agmara. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi l'agmara, dans Rosh Hashanah, Yud et Yud Aleph, Ken? Et Yudvé, Ken? Dans la deuxième page de la première et dans la première page de la deuxième, et Shnei Anosim derech Hasvarot shel Rabbi Eliezer shel Rabbi Yoshua. Maintenant, vous comprenez pourquoi ces deux stages discutent de ces deux trucs-là. Ces deux dates, ça me fait rire, de la création du monde. De quoi tu parles? Les dates, Rabbi Eliezer, Nivra, Olam, Bechodesh, Tishrei. Donc, Rabbi Eliezer dit que le monde fut créé à Tishrei. Ou les dates aussi le Rabbi Yoshua Olam Nivra Benissan. Le monde a été créé à Nissan. Qu'est-ce que ça veut dire? Aemet ishe esem ha-ashva'a ben hanotsim. Le fait même qu'ils puissent les deux comparer ces deux sujets, Omer et Darcheli, ça vient nous dire, mais tu ne te poses pas des questions? Tu t'es arrêté à ce niveau-là? De l'étude? Betishre Nivra Olam Yesh Me'ain. C'est vrai qu'à Tishre, le monde a été créé dans ce qui sera après Tishre. Parce qu'il n'y avait pas encore. Yesh me'ain ex nihilo. De rien, de l'infini béni soit-il, il y a eu un monde matériel. Et la sheloit parsema davar ki im beitiat mitzrayim. Mais qui l'a su? Juste après, au moment de la sortie d'Égypte. Ça veut dire que depuis la création du monde, jusqu'à la sortie d'Égypte, personne ne connaissait Akadosh Baruch Hu. Donc en réalité, yetiat mitzrayim, c'est la libération d'Akadosh Baruch Hu. À travers qui? Son nom. Qui est le peuple d'Israël. Shmo shel Akadosh Baruch Hu. Exactement. Donc qui l'a libéré? Shemo. Donc en réalité, qu'est-ce qu'il faut libérer? Les noms. Ve'ele. Shemot b'nei Israël abayim Mitzrayim. Maintenant vous comprenez pourquoi ce sont les noms, dit le Zohar, qui sont tombés en Égypte. Au présent. Abayim. Tout le temps. Ongoing. Ça veut dire à chaque fois, on perd des noms. On ne comprend pas. Et qui va sortir d'Égypte? Les noms. Et qu'est-ce que c'est que les noms? Kola Torah Kula, Shmotav chez la Kadosh Baruch Hu. Donc en fait, on a libéré d'Égypte quoi? Tous les noms, c'est-à-dire la Torah. Et une fois que la Torah a été libérée d'Égypte, eh bien elle veut se présenter devant nous. 50 jours plus tard, parce qu'il faut juste une petite distance avec l'Égypte, parce qu'il y a trop d'embêtements là-bas pour concevoir ce que toi-même t'as libéré en sortant de ta propre Égypte. Mais je vais vous dire quelque chose de très secret. Tant que vous n'êtes pas sorti de votre propre Égypte, vous ne pouvez pas réellement étudier la Torah dans son sens le plus profond. C'est ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un kabbaliste? C'est quelqu'un qui sort sans arrêt d'Égypte. Et donc il est capable de décoder des choses que les autres ne peuvent pas parce qu'ils sont encore pris sous l'emprise de quoi ? Du cérébral. De leur logique. Ils sont encore dans le Etz Hadaat. Alors que le kabbaliste, il est déjà dans le Etz Hakraï. Alors même le kabbaliste, il a des chutes. Et après, il doit repartir. Et c'est sans arrêt, ça s'appelle Ratso Vachov. Ratso Vachov. Tu t'en vas et tu reviens. Ça s'en va. Voilà. Il avait raison, Claude. Alors, Ovdei HaKochavim, donc ceux qui servent les étoiles, Vea Mazalot, maintenant vous comprenez, l'Égypte c'est quoi ? C'est le top niveau de tout ça. C'est-à-dire servir les étoiles, servir les je ne sais pas comment on dit, les constellations. Hayu makrishim et uvdat abriya ad shu chacha, ken yecholto shel aboré le shaded et kol ma'archot ha'teva begeulat Mitzrayim. Tous ces sorciers, tous ils étaient contre quoi ? Contre l'idée, Bechlal, qu'il y ait une force qui puisse changer la nature. Comment ce verre-là d'eau, il va devenir du sang ? De quoi tu parles ? Eh bien, quand Akadosh Baruch Hu a commencé à faire ça, il dit, bon, ça on va essayer de faire à peu près pareil. Alors tout ce qu'il faisait, c'était de l'imitation, parce que la sorcellerie, c'est en réalité une illusion d'optique. Ben oui, c'est une illusia, ça s'appelle. C'est-à-dire, c'est une illusion. En hébreu, illuzehaya, en vrai, c'est l'eau. Illusia. Bien. C'est illu.
C'est pas le dark side, le côté...
C'est le côté dark side, ok, il n'y a pas de souci. J'ai compris, de l'existence, c'est la même chose. Mais en réalité, ça n'a pas de tenue dans la réalité. La preuve, c'est que dans la troisième plaie, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Etzba Elohim. Et encore, Etzba Elohim, c'est-à-dire encore la nature. Mais déjà ça, on n'arrive pas. Alors qu'est-ce que c'est Yudke Vavke ? Ribono Shelolam, lo yadati et Yudke Vavke. Lo yadati, je ne comprends pas. Pas ça, lo yadati. Pas je ne connais pas. La date, c'est connaître charnellement, physiquement, intimement. Je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est. C'est la même chose que Yosef. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas connaître Yosef ? Ne pas se connecter avec qui ? Qui c'est Yosef ? Je vous ai déjà dit Ani Yosef otiyot entof. Ani Yosef entof. Donc Moshe, qu'est-ce qu'il va récupérer du Nil en fait ? Le entof. Qui nourrissait jusqu'à maintenant l'Égypte. Donc qu'est-ce qui nourrissait en réalité ? Le cerveau cartésien des hommes. Donc quand on est sorti d'Égypte, l'Égypte et le monde entier est cartésien. Les sont devenus fous. Ils sont devenus fous. Il y a un nouveau peuple dans ce monde qui vient avec des valeurs qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Ils sont venus avec des dires que personne ne peut inventer. Ils étaient sur le mont Sinaï et le maître de l'univers, celui qui a créé, qui les a fait sortir d'Égypte, parce qu'il leur répète, Anochi Adonai Elohecha, Asherot Sefich Ameret Mitzrayim. C'est pas un nouveau Dieu maintenant, c'est le même qui t'a fait sortir d'Égypte qui est en train de te donner la Torah. C'est-à-dire, celui qui est capable de défier les lois de la nature est capable de te donner une Torah qui va défier toutes les lois de la nature. Et tu l'as vu toi-même. La mer, elle ne peut pas s'ouvrir. Elle s'est ouverte. Tu as déjà vu un phénomène pareil, toi ? On peut inventer une histoire pareille ? Comment la mer peut s'ouvrir alors qu'elle est fermée ? Yam Sof ! Ça veut dire quoi ? Que le En Sof, En Sof, il est contre le Sof. Il peut. Maintenant, je vous pose une question un petit peu plus grave. Le Sof, qui est la nature. Elle est contente ?
Non.
Elle n'est pas contente. Pourquoi ?
Elle est contre sa nature.
Exactement. La nature, elle vient, elle se révolte. Elle a mis un gilet jaune. Elle est venue devant Akadosh Baruch Hu, elle a dit, oh, tu es le patron, mais tu m'as créé. Pourquoi tu me changes mes lois ? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Tu as raison. Enlève ton gilet. Je vais te récompenser. Quand? À la dernière Géoula. La Géoula dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle ne sera pas contre la nature, elle va s'habiller dans la nature. Voilà la récompense. C'est pour ça que la Géoula d'aujourd'hui, c'est tout le contraire de ce qu'on a vu en Égypte. Là-bas, c'était vite, 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 vite. Et là, c'est Kima, Kima, Kilo Bemenusa Telechun. Je lui dis. Vous comprenez comment ça marche? Ça s'habille dans la nature. Et quand ça s'habille dans la nature, quel est le problème? Ça ne se voit pas. Et donc je reviens à ce que je vous ai dit au début du cours, et avec ça on va terminer pour aujourd'hui. Et on continuera, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Qu'est-ce qui est très important? C'est de chercher à voir si pita les choix. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut essayer de voir, en regardant dans les informations du jour, comment Akadosh Baruch Hu fait avancer son système. Exactement. Donc il va nous placer des choses que tu ne comprends pas. Il va nous amener un type en orange, avec des cheveux orange, un clown, par exemple. Et il va te faire des choses qui ne sont pas dans la logique. C'est-à-dire, personne ne peut concevoir même qu'il va être président. Et tu as l'impression qu'il fait ce qu'il veut. Mais en réalité, c'est tout dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ce monde est un grand masque. C'est un clown. Ce monde est un clown. Quand je dessine des clowns dans mes toiles, c'est ça que je veux dire. J'appelle ça les mondes cachés. C'est-à-dire que derrière le masque, il y a Akadosh Baruch Hu qui agit. C'est ça le secret. Donc il va falloir déceler, il faut un décodeur maintenant, c'est des lunettes spéciales, tout ce monde fait. Si tu n'as pas le décodeur, voilà. Donc maintenant, on va devoir acheter un décodeur. Et le décodeur, c'est Bezrat Hashem, cette Torah, qui va vous aider, qui va nous aider à voir et à rentrer calmement dans cette Géoula, alors que tout dit le contraire. Donc si tu n'as pas les yeux pour voir, comment tu vas savoir? Tu n'as pas les kélim. Donc à chaque fois qu'on va te dire c'est le moment de la Géoula, tu vas dire oh, c'est ce qu'on nous dit dans les cours. Mais quand je vois dans la rue, le rabbin, Mtsken, il est un peu fatigué. Des cachets, des machins, tous dans la dépression, regardez, les souffles. Alors,
c'est l'hiver.
Je vais terminer en vous disant un secret. Aujourd'hui, vous êtes déjà grands-parents, mais lui, il est encore Bezrat Hashem, Bekarov. Il va être marié, papa.
Amen.
Avec tous les célibataires du peuple d'Israël. Vous voyez, il faut que je pense sans arrêt à tout le monde. Quand une maman, elle calme son bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Intuitivement, elle fait chut. Vous savez pourquoi? Pour lui faire entendre les sons qu'elle avait dans le ventre. Si vous écoutez le son du ventre quand le bébé est à l'intérieur, fœtus, ça veut dire qu'en réalité, le bébé, pour le calmer, la maman, elle ne le sait pas. Mais la Kabbalah, elle se dit qu'elle fait les bruits qu'elle avait dans le ventre parce que tu te calmes seulement quand tu te remets dans la source de laquelle tu es venu. Donc elle remet le bébé dans son ventre avec les mêmes bruits, et le bébé se calme parce qu'il se rappelle de son moment de calme où il était dedans. Quand il est sorti dans ce monde, ça lui fait peur. Où je veux en venir? Eh bien, c'est la même chose. La Torah qu'on est en train d'étudier, c'est comme si on était en train de vous faire... Parce que vous êtes en train d'écouter ce que vous avez déjà entendu dans le ventre de votre mère. Geoula Shlema. Toda Rabba.
Mais on dit que le liquide amniotique, c'est un...